Chapitre 16 Consulter les docteurs spirites. Je reçois de temps à autre des lettres dans lesquelles on me demande s'il serait légitime de consulter les médecins spirites, ou les somnambules lucides. Ces agents de Satan deviennent si nombreux, et la coutume de recourir à leurs conseils se répand si rapidement qu'il semble nécessaire de faire entendre ici quelques paroles d'avertissement. Dieu nous a mis à même d'obtenir la connaissance des lois de la santé. Il nous a imposé le devoir de conserver nos facultés physiques dans le meilleur état possible, afin de pouvoir lui rendre un service qu'il puisse agréer. Ceux qui se refusent à mettre à profit les lumières et les connaissances qui ont miséricordieusement été mises à leur portée rejettent l'un des moyens que Dieu leur a accordé en vue de cultiver la vie spirituelle aussi bien que la vie physique. Ils se placent là où ils seront exposés aux séductions de Satan. Ils sont nombreux en ce siècle, et en cette nation qui se pique de christianisme. Ils sont nombreux, dis-je, ceux qui s'adressent au mauvais esprit plutôt que de mettre leur confiance en la puissance du Dieu vivant. La mère qui veille au chevet de son enfant malade pousse ce cri, « Je n'en puis plus. N'y a-t-il pas quelque docteur qui puisse guérir mon enfant ?» On lui raconte alors les cures merveilleuses opérées par quelque somnambule ou magnétiseur, et elle lui confie son cher enfant. Elle le remet aussi certainement entre les mains de Satan que si celui-ci se tenait à ses côtés. Dans nombre de cas, la vie subséquente de l'enfant est dirigée par une puissance satanique qui semble irrésistible. J'ai entendu une mère supplier un docteur incrédule de sauver son enfant. Mais quand je l'encourageais à rechercher le grand docteur qui peut toujours sauver ceux qui s'approchent de lui avec foi, elle s'est détournée de moi, avec impatience. Lorsqu'Akasia, roi d'Israël, tomba malade, il donna cet ordre à ses messagers, « Allez, consultez Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Ils rencontrèrent Élie chemin faisant, et au lieu d'entendre le message de l'idole, le roi d'Israël entendit cette sentence terrible du Dieu d'Israël, « Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » C'est Christ qui avait poussé Élie à adresser ce message au roi apostat. Jéhovah Emmanuel avait lieu d'être fort mécontent de l'impiété d'Akasia. Qu'est-ce que Christ n'avait pas fait pour gagner le cœur d'Israël, et lui inspirer une confiance implicite en lui ? Depuis des siècles il avait manifesté à son peuple une condescendance et un amour sans pareil. Dès le temps des patriarches, il leur avait prouvé qu'il trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme. Il s'était montré disposé à venir en aide à tous ceux qui le recherchaient sincèrement. Dans toute leur détresse il a été en détresse, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde. Israël s'était néanmoins détourné de Dieu, et il allait maintenant chercher du secours auprès des pires ennemis du Seigneur. Les Hébreux étaient le seul peuple qui fut favorisé de la connaissance du vrai Dieu. Quand le roi d'Israël envoyait prendre des informations auprès d'oracles païens, il proclamait aux païens qu'il avait plus de confiance en leurs idoles qu'au Dieu de son peuple. Le Créateur des cieux et de la terre. De même aussi, ceux qui professent avoir connaissance de la parole de Dieu le déshonorent lorsqu'ils se détournent de la source de la force et de la sagesse pour solliciter l'assistance ou les conseils des puissances des ténèbres. Si la colère de Dieu a été enflammée contre un roi idolâtre et impie parce qu'il suivait cette voie, comment doit-il considérer un acte identique de la part de ceux qui professent être ses serviteurs ? Plusieurs ne veulent pas se donner la peine nécessaire pour acquérir la connaissance des lois de la vie et des simples moyens curatifs auxquels il faut recourir pour rétablir la santé. Ils ne se placent pas dans les rapports voulus avec la vie. Quand la maladie les visite en conséquence de leur transgression des lois de la nature, ils ne s'efforcent pas de revenir de leurs erreurs afin de pouvoir implorer sur eux la bénédiction de Dieu, mais ils ont recours à l'art du médecin. S'ils recouvrent la santé, ils en rendent gloire au docteur et aux médicaments. Ils sont toujours prêts à s'incliner devant la puissance et la sagesse humaine, comme s'ils ne connaissaient pas d'autre Dieu que la créature, la poudre et la cendre. Il y a imprudence à se mettre entre les mains d'un docteur qui n'a pas de crainte de Dieu. Privé de l'influence de la grâce divine, le cœur de l'homme est trompeur et désespérément malin. Ils se proposent leur propre gloire. Quelles ne sont pas les iniquités qui ont été pratiquées et les tromperies qui ont été abritées sous le manteau de la profession médicale? Le docteur peut avoir la réputation de posséder une grande sagesse et une habileté consommée, alors qu'il est dissolu, et qu'il transgresse les lois de la santé. Le Seigneur, notre Dieu, nous assure qu'il désire nous faire miséricorde. Il nous invite à aller à lui au jour du malheur. De plus, l'enseignement de ces docteurs tend constamment à nous détourner des principes que Dieu nous a donnés au sujet de la santé, et cela tout spécialement sur la question du régime alimentaire. Ils prétendent que nous ne nous nourrissons pas comme il faut, et prescrivent des changements contraires à la lumière que Dieu nous a donnée. Mes frères, comment le Seigneur peut-il nous accorder sa bénédiction quand nous allons nous placer sur le terrain de l'ennemi? Pourquoi a-t-on tant de peine à se confier en celui qui a créé l'homme, et qui peut, par un attouchement, un mot, un regard, guérir n'importe quelle maladie? Qui est-ce qui est plus digne de notre confiance que celui qui a fait un si grand sacrifice en vue de notre rédemption? Notre Seigneur nous a donné des instructions précises par l'apôtre Jacques, au sujet de notre devoir en cas de maladie. Dès que l'impuissance humaine aura été constatée, Dieu sera le soutien de son peuple. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Si ceux qui professent être disciples du Seigneur avaient autant de confiance en Dieu que dans les instruments de Satan, ils expérimenteraient la puissance vivifiante du Saint-Esprit dans leur corps et dans leur esprit. Dieu a accordé à son peuple de grandes lumières. Il ne s'ensuit pas, néanmoins, que nous soyons hors de l'atteinte de la tentation. Qui sont ceux d'entre nous qui vont prendre conseil du Dieu d'écran? Considérez ce tableau. Il n'est pas une fiction, mais un portrait fidèle. Quels sont ceux d'entre mes lecteurs qui peuvent s'y reconnaître? Un invalide très consciencieux en apparence, mais en réalité fanatique et rempli de lui-même, affiche le plus grand mépris pour les lois de la vie et de la santé que le Seigneur, par un effet de sa bonté, a bien voulu nous faire connaître. Il faut que ces aliments soient apprêtés de manière à satisfaire ses appétits morbides. Plutôt que d'aller à une table où on lui servirait des aliments sains, il ira au restaurant, parce qu'il pourra y satisfaire son appétit sans restreinte. Bien qu'il soit un défenseur d'Isère de la cause de la tempérance, il en méconnaît les principes fondamentaux. Il désire la guérison, mais il ne veut pas l'acquérir au prix du renoncement. Cet homme fléchit le genou devant l'autel d'un appétit perverti. Il est idolâtre. Des facultés qui, sanctifiées et ennoblies, pourraient contribuer à la gloire de Dieu, sont affaiblies et deviennent d'une utilité douteuse. Un tempérament irascible, un cerveau qui manque de lucidité et des nerfs délabrés, voilà quelques-unes des conséquences de sa transgression des lois naturelles. Il est incapable et mérite peu de confiance. Quiconque a le courage et la droiture de lui signaler son danger s'attire son déplaisir. Lui fait-on la plus légère remontrance ou la moindre opposition? Il s'armera aussitôt pour le combat. Mais que l'occasion se présente de consulter un homme dont la puissance procède d'une source occulte, il s'adressera aussitôt à lui avec empressement et dépensera sans compter son temps et son argent dans l'espoir d'obtenir l'objet désiré. Il est séduit, infatué. Il fait de la puissance du magicien le sujet de ses louanges, et d'autres sont entraînés par son exemple et ses paroles. Le Dieu d'Israël est ainsi déshonoré, et la puissance de Satan révérée, et exaltée. Au nom de Christ, que ceux qui se réclament de lui me permettent de leur dire, demeurez fermes dans la foi que vous avez reçue dès le commencement. Évitez les discours vains et profanes. Au lieu de mettre votre confiance dans la nécromancie, mettez-la dans le Dieu vivant. La malédiction repose sur le sentier qui conduit soit à Endor, soit à Écron. Les pieds qui s'aventurent sur ce terrain défendu s'achopperont et tomberont. Il y a en Israël un Dieu qui délivre tous ceux qui sont opprimés. La justice est à la base de son trône. Ce n'est pas sans péril qu'on s'écarte en quoi que ce soit des instructions du Seigneur. Dès qu'on se sera écarté du sentier clairement marqué du Seigneur, les circonstances s'enchaîneront pour nous entraîner irrésistiblement de plus en plus loin du bon chemin. Une intimité inutile avec ceux qui ne connaissent pas Dieu nous séduira avant que nous ayons eu le temps de nous en rendre compte. La crainte de froisser les susceptibilités de quelque ami mondain nous empêchera d'exprimer nos sentiments de reconnaissance envers Dieu, ou de reconnaître que nous dépendons de lui pour toute chose. Il faut s'en tenir strictement à la parole de Dieu. Ses avertissements et ses encouragements, ses menaces et ses promesses nous sont nécessaires. Il nous faut le parfait modèle qui ne se trouve que dans la vie et le caractère de notre Sauveur. Les anges de Dieu garderont ses enfants tant qu'ils suivront le sentier du devoir. Mais aucune promesse de ce genre n'est faite à ceux qui, de propos délibérés, s'aventurent sur le terrain de Satan. Un agent du grand séducteur fera ou dira n'importe quoi en vue d'arriver à ses fins. Peu lui importera de porter le nom de spirit, d'électriseur, ou de magnétiseur. C'est par des prétentions spécieuses qu'il captera la confiance des malavisés. Il prétend posséder la faculté de lire l'histoire de la vie, et de comprendre toutes les difficultés et toutes les afflictions de ceux qui ont recours à ses services. Se déguisant en ange de lumière, alors que la noirceur de l'abîme est dans son cœur, il s'intéresse tout spécialement aux femmes qui recourent à ses conseils. Il leur apprend que tous leurs maux sont le fait d'une union malheureuse. Tel peut être le cas. Mais une telle déclaration ne change rien aux circonstances. Il leur déclare qu'elles ont besoin d'amour et de sympathie. Tout en affectant de leur porter le plus grand intérêt, il jette un charme sur ces naïves victimes, et il les captive comme le serpent charme l'oiseau tremblant. Elles tombent bientôt entièrement en son pouvoir, et le péché, la honte et la ruine en sont les terribles conséquences. Nous ne serons en sécurité que lorsque nous respecterons les anciennes bornes. À la loi, et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple.